France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Cérone. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera de L'enfant que j'ai connu, un spectacle de Julien Fissera sur un texte d'Alice Zénitaire. 19h45, Affaires en cours. Diane Dufour, commissaire d'exposition, directrice du BAL, expliquera à Marie Sorbier les résonances contemporaines du mouvement artistique italien L'Arte Povera. 19h50, Affaires à suivre avec le violoniste Nemanja Radulovic. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Cérone.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Ah ben, on est très heureux de vous accueillir puisque demain, dans les bacs, on pourra trouver Cérone by Cérone, votre nouvel album, un long mix qui paraît sous le label Because Music. Ce soir, on va, si vous voulez bien, descendre les marches de la boîte de nuit, entrer dans votre musique, on va l'écouter et on reviendra sur votre parcours, sur ce nouvel album pour lequel vous avez réenregistré 16 titres. On entre tout de suite dans la boîte.
Give me all that you got.
comme je l'expliquais, Céron, hein, ce disque, c'est un long mix. Tous les morceaux s'enchaînent, comme on vient de l'entendre. Ça danse toujours en régie, ce qui est bon signe, hein, c'est ce qu'on se disait.
C'est exactement les sets que je fais quand je prends la place de DJ sur des festivals ou sur des gros endroits. C'est exactement la musique que je joue. En fait, c'est la première fois que c'est mon 30e album et que je peux faire exactement sur scène ce qu'est le disque, en fait. Parce qu'à chaque fois, on traduit, mais c'est différent quand même.
Alors, de notre côté, on va quand même essayer d'en savoir un peu plus sur connaître les événements qui se sont enchaînés pour faire que le petit Marc Céron, fils d'immigré italien, né à Vitry-sur-Seine, devienne le roi du disco. Le premier fait notable, bon, il est douloureux, c'est la séparation de vos parents quand vous avez 5 ans, qui fait que vous êtes envoyé en pension, vos frères aussi. C'est la fin de l'innocence, déjà, des débuts, des années difficiles, pour vous qui débordiez d'énergie, sans doute en réaction à la dureté de cette enfance. Mais la vie est en pleine de hasards qui n'en sont pas forcément. Céron, votre mère vous offre une batterie quand vous avez 12 ans, puisque vous tapez surtout tout le temps, elle se dit qu'autant le faire sur un instrument qui est prévu pour. Vous avez-vous des souvenirs précis des premières sensations devant la batterie?
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'étais très turbulent et je viens d'une famille modeste, donc ma mère me dit à force de te faire virer, on va pas pouvoir te payer d'école privée, mais si t'arrives à canaliser ce que t'as besoin d'extérioriser, faut le faire sur un instrument. Je t'offre une batterie si tu arrives à garder l'année sans te faire virer. Elle me demandait même pas d'être bonne élève, de ne pas me
faire virer.
Et en fin de compte, à l'instant où elle m'a dit ça, quelle drôle d'idée, parce que je ne pensais pas, je n'objectivais pas de devenir musicien ou quoi que ce soit, mais je n'écoutais en radio ou en télé, là où on écoutait de la musique, que la batteur. Ce qui veut dire qu'en fin juin, en fin de saison scolaire, de période scolaire, elle m'a amené dans un magasin pour aller acheter la batterie. J'y croyais à peine. Et le vendeur était très surpris parce que j'avais déjà capté plein de choses de comment...
Dissociation des mains, des pieds.
Pendant des mois, exactement, bravo.
J'ai fait ça sur mes tables de cours aussi, vous savez.
Pendant des mois déjà, en me focalisant pour distinguer le bras gauche, le bras droit, les jambes et autres, et la tête en plus, ça m'a évidemment beaucoup aidé. Et elle m'a présenté mon meilleur ami, qui l'est toujours d'ailleurs, que je partage sur chaîne, dans mes studios, constamment. C'est un plaisir pour moi de taper dessus, et surtout pour voir les gens qui ont la banane. À chaque fois que j'arrive, ils ont la banane. Quand on voit les nouvelles qu'on vient d'entendre, je suis très content d'écouter un peu de musique.
Ouais, c'est sûr. Alors, cette musique, d'abord celle que vous écoutiez, jeune homme, ça allait de Otis Redding à Jimi Hendrix, de Chicago à Santana, et vous formez un premier groupe à 14 ans. Mais est-ce que vous vous sentez tout de suite dans votre élément, dans de la musique ?
Ah oui, c'était pas un choix, c'est mon ADN. Et puis comme j'étais pas trop mauvais, donc en banlieue parisienne, ça a été à Vitry, après à Orly, après c'est venu sur Paris, j'ai commencé à être catalogué comme un bon batteur, qui était difficile d'ailleurs. Je me souviens, à 14 ans, dans mes premiers groupes, on jouait souvent derrière des brasseries, derrière des cafés qui avaient des salles de mariage. Mais là, c'est là où commençait, on appelait les booms. J'étais sur scène et j'avais pas le droit de descendre dans la salle à 14 ans. Mais c'est un tas de bons souvenirs comme ça, ouais.
Alors, votre père, lui, il veut quand même que vous ayez une formation. Alors, j'ai lu que vous aviez fait des études de coiffeur de cinéma. Vous en êtes même diplômé. J'avoue que c'est un art qui paraît très pointu. Vous l'avez exercé un peu, cet art-là, de la coiffure, Céron, ou pas?
Bah oui, dans les écoles, parce que pour passer les examens, il faut savoir un peu.
Mais ensuite, vous n'avez jamais travaillé dans la
coiffure? Non, mais comme je suis très manuel, pour ça que je fais de la batterie aussi, donc j'ai passé les diplômes. Pensant que mon père allait vraiment craquer, parce que c'était cher l'école pour la haute coiffure. Et en fin de compte, à la fin, au diplôme, il me dit, tu vois, j'ai bien fait de te pousser, maintenant tu vas aller travailler en salon, et puis à 25-30 ans, tu pourras monter ton salon. Et je lui dis, non, c'était pas le deal.
Non, ça vous a pas fait rêver, ça.
Donc j'ai fugué pendant 2 ans, je suis parti. Ouais. Comme mes parents étaient divorcés, c'était assez simple. Ma mère savait quand même ce que je faisais par le fou. Puis j'étais tellement concentré dans la musique. Je pense que si j'avais pas connu la musique et si c'était pas venu en moi comme cela, j'aurais pu faire comme beaucoup dans les banlieues.
Des bêtises.
Nous, à l'époque, on les appelait les ritales. C'est juste si on ne jetait pas les pierres. Donc il y avait les noirs et les ritales à l'époque. Et en fin de compte, je cherchais d'avoir des copines qui étaient dans des facs ou quoi que ce soit, qui avaient des chambres de bonne pour me loger. Et puis, avec une certaine, et ça a duré un peu plus longtemps. Et au bout de 6 mois, elle me dit, tiens, je me suis fait engager au Club Med. Et quelle mauvaise idée. Ouais. Et Gilbert Trigano, 48 heures avant qu'elle parte en village, il faisait toujours des...
C'est le patron du Club Med, historique, ouais, hein, l'inventeur.
Il faisait des grandes fêtes. Donc j'ai accompagné mon amie, parce qu'elle allait me quitter dans 2 jours. Et je faisais certainement la gueule. Et Trigano, qui était quelqu'un de très accessible, il est venu vers moi et il me dit, oh, il n'est pas content le monsieur, là, il n'est pas content le bonhomme. Pourquoi t'es pas content? Je dis, bah, vous prenez mon ami, je me retrouve tout seul. Il me dit, pourquoi tu viens pas au club? Tu fais quoi dans la vie? Et je lui dis, je fais de la musique. Et il me dit, ah, ça c'est moins bien pour moi. Et je lui dis, non, pourquoi vous n'avez pas des groupes? Il me dit, c'est-à-dire? Bah, je lui dis, pourquoi vous montez pas des groupes? Il me dit, va plus loin. Bah, je lui dis, on décide ensemble d'un répertoire. On engage 10 bassistes ou 20 bassistes, ça dépend le nombre de clubs, vous découvrir. Bref, on monte des groupes et on les envoie. Et il me dit, tu saurais faire ça? J'ai culotté, j'ai dit, bien évidemment.
Vous aviez quel âge, là, Céron ?
Là, j'avais 17 ans. Et j'avais tronqué mes papiers avec, soi-disant, autorisation de mes parents. J'avais passé 18 ans, mais c'était tout faux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé
directeur musical artistique du Club Med.
Et c'est ce qui m'a permis aussi de connaître les très bons musiciens que je voulais pour monter, au final, mon groupe qui était Congas.
Congas, c'est le premier groupe. Satisfaire de ce travail, un beau travail que celui au Club Med. Donc, mais il y a ce groupe que vous créez, les Congas, avec ces musiciens repérés, les meilleurs du Club Med, tant qu'à faire. Mais il vous faut un producteur, alors vous décidez de prendre quelques chutes de votre batterie, d'aller jouer sur le port de Saint-Tropez pour vous faire remarquer. Et encore une fois, il faut provoquer la chance.
Alors, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que à partir du mois de mars, on avait choisi avec Congas un répertoire. Arrivé fin juin, on s'est dit, on se retrouve au mois de septembre, trouver un agent, un manager, et essayer d'avancer. Et j'ai pris une copine qui, du moment, et je lui ai dit, tu sais quoi, on va descendre à Saint-Tropez, je vais me faire un plateau avec des roulettes, on va mettre une batterie, et puis je vais faire des sauts de batterie sur le port de Saint-Tropez, me faire remarquer, en fait.
Ah ouais.
Et de faire des rythmiques. Et donc, on l'a fait, et elle faisait la manche avec un petit chapeau melon. On vivait très bien, d'ailleurs, ça se passait très bien. Et un soir, vient Eddie Barclay, qui était une sommité à l'époque. Le troisième soir, il met un petit papier dans le chapeau melon de mon ami pour que je le rejoigne une fois que j'ai terminé. Donc, je suis allé le rejoindre une fois que j'ai fini. Et il m'a dit, écoute, viens, t'as du charisme, tu sais y faire avec la foule. Il te faut absolument un groupe. Viens déjeuner chez moi demain, je t'invite, viens déjeuner chez moi. Je l'ai fait, je vous fais la version courte. Je lui explique que j'ai déjà un groupe qui est prêt, qui s'appelle Congas. Donnez-moi ma chance, faites-moi jouer au Papagayo, qui était le grand club européen de l'époque. Et je fais descendre toute mon équipe, on joue au Papagayo deux soirs, on est resté tout l'été. Ouais. Fin août, on a signé notre premier contrat. Novembre est sorti notre premier single qui s'appelait Annie Canao, qui a été un énorme succès. Ça fait 50 ans. C'est de cette date qu'on a pris pour dire c'est 50 ans.
50 ans. Et puis il y aura donc un premier album en 74. Et puis là encore, vous ne semblez pas satisfait, Céron. Vous décidez encore de changer les choses, vous partez, vous devenez chef d'entreprise, vous ouvrez Paris Import Music et vous ouvrez une chaîne de magasins de disques. Et puis, il y a une musique quand même qui arrive à la mode, qui est le disco. Vous vous retrouvez à la tête d'une chaîne de magasins. Alors, deux questions. Est-ce que vous avez aimé être entrepreneur? Et la deuxième, ce sera si vous vous souvenez des premiers titres de disco que vous avez écoutés. Vous avez aimé être patron?
Oui, parce que je suis toujours patron. Je suis pas seul, j'ai une équipe de 12-15 personnes tous les jours qui s'occupent, on est très occupés, ou d'être chef d'orchestre, ça veut pas dire être autoritaire. Hein. J'ai d'ailleurs deux membres de Congas sont devenus mes musiciens sur scène et on est toujours très amis. Et monter les magasins Import Music, oui, ça m'a amusé parce que, en fin de compte, j'ai choisi, quand je me suis dit j'arrête Congas, on faisait 250 galas par an, c'était vraiment éprouvant. Et puis j'ai ras-le-bol. Et je me suis dit je vais monter un magasin de disques pour rester dans la musique, mais il faut que je trouve quelque chose de différent, sinon je vais pas en vivre. Donc j'ai appelé le magasin Import Music et je me suis dit c'est Import, il faut que j'achète mes disques ailleurs. Donc j'ai commencé à acheter des disques chez des grossistes américains et un peu partout. Je me faisais un slogan, c'est que à Import Music on trouvait, si on ne trouvait pas un disque qu'on cherche, pardon, à Import Music on ne le trouvera pas ailleurs. Donc j'avais deux types là-dessus qui travaillaient pour avoir cette réputation. Et puis le grossiste, là où j'achetais mon stock, me dit « Écoutez, vous défendez bien, vous avez plein d'idées, il y a des centres commerciaux qui vont arriver maintenant. » Je me fais expliquer ce que c'était. Le premier étant Belle Épine, à Thiers, pas loin de Vitry. Et en fin de compte, il me dit « Trouvez un endroit ». Si vous voulez, on le fait ensemble et moi je vous finance le stock. J'ai trouvé l'endroit, un endroit idéal. En plus, c'était l'endroit de cet élève qui avait financé le centre. Vous savez, quand on provoque les choses, les opportunités arrivent. On vous appelle pas au téléphone pour vous le dire à l'arrivée. C'est à vous d'aller aussi provoquer les choses.
Vous avez toujours provoqué la chance, vous.
Oui, sans avoir des buts définis, mais d'essayer d'être bon, quoi, quand les choses passent, essayer de pas voir les barrières. Moi, les barrières, en 50 ans, quand je regarde derrière moi, j'ai certainement dû en avoir. Mais elles m'ont pas affecté au point de changer ma trajectoire, en tout cas. J'avais plutôt tendance d'avoir une image peut-être un peu mégalo, c'est-à-dire de monter par-dessus la barrière pour m'en servir d'escabeau. Mais peu importe si l'arrivée est bonne et on fait du mal à personne. Oui, j'ai avancé comme ça. En tout cas, pour répondre à votre première question, oui, ça m'a plu de monter Import Music. Mais le succès de la musique est arrivé, donc j'ai vendu cette chaîne qui est devenue Getz. Ils en ont monté 50 derrière.
Mais c'est vrai que le succès de la musique est venu, mais alors ça commence avec Love in C Minor, un morceau de 16 minutes 14, qui est quand même très étrange. Une pochette, évidemment, qui marque les esprits avec le jeune Marc Zéron et une jeune femme très peu vêtue. On va dire ça comme ça, très 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 peu. Ça va changer quand même le cours de votre vie, ce morceau-là. Comment il est né, ce morceau?
Il est né d'abord de la batterie. J'avais découvert avec Congas, quand ils partaient en solo, les deux percussionnistes, j'avais découvert ce pied. Je voyais comment les gens, je pouvais en jouer, m'arrêter, garder les charlettes, faire un peu de bruit, dire repartir. À chaque fois, ça remontait. Parce que les DJ ont découvert aussi aujourd'hui avec 50 ans, 45 ans après. Et quand j'ai fait la Vinci Manor, j'ai installé ce pied pendant 20 minutes. Après, j'ai fait ma snare. Après, j'ai fait ce qu'on appelle mes Charleston en français.
Charleston.
Après, j'ai installé une basse. J'ai construit au fur et à mesure, et comme je pensais qu'on allait pas en vendre, ça sortira jamais, j'ai demandé à un arrangeur de génie qui nous a quittés il y a pas longtemps, que je salue, qui s'appelait Don Ray, qui m'a écrit des cordes. Alors je venais avec des modèles, j'ai dit voilà, écris-moi des cordes harmonisées à la Barry White. Alors je faisais la ligne mélodique, mais lui il les harmonisait comme il fallait. Et cet arrangeur a fait qu'on a fait la Vinci Minor. Et la légende dit qu'il y a des voix porno dessus.
C'est une légende.
Ça s'est fait, c'est une légende.
C'était enregistré in situ dans le studio.
C'est que tout le monde me prenait pour un fou quoi, en studio. Quand je suis arrivé déjà dans la cabine, je venais d'un groupe rock, afro-rock. J'ai dit, mais moi je ne travaille pas avec deux petites enceintes. Il me faut des tours comme sur scène. Donc on a loué ça et on a fait un gros son. J'ai eu raison, je crois, puisque 47 ans après, ça a toujours le son. Et à la fin de l'enregistrement, comme tout le monde avait commencé à découvrir ce que ça était en train de devenir, les voix qu'on a enregistrées en dernier, Et pour faire plaisir à tout le monde, j'ai invité tout le monde au studio pour écouter le mixage terminé avec champagne, les petits fours et ce qu'il y a ça. Et les filles sont parties à faire ces délires. Donc j'ai dit à l'ingénieur, je lui faisais le signe, allez, tu prends.
Fais tourner.
Et je leur ai demandé, vous m'autorisez ? Elle me dit, mais attends, c'est exactement le son que je cherchais, d'avoir un son. J'avais fait cet album pour les clubs, pour les discothèques, pas pour les radios. Pas du tout avec un objectif, ça va être un carton. Mais quelque chose d'un peu sexy, comment je peux dire, un peu chaleureux.
Ouais. Ah bah très très chaleureux. Et à force de forcer la chance arrive aussi, puisqu'il y a cette fameuse histoire d'un disquaire des Champs-Élysées qui croit envoyer un carton d'album de Barry White défectueux retour à New York, sauf que dedans c'est Love in C Minor et qu'à New York ce disque est remarqué, ce disque commence à être joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous partez, Céron, pour vérifier ça. Vous allez rester plus de 20 ans finalement aux États-Unis.
22 ans. Oui.
Love in C Minor va avoir un Grammy Award en 76. Cette fois, ça y est, vous êtes... enfin, absolument dans ce que vous aimez pleinement. Tout à l'heure, on va entendre Supernature qui conclut votre nouveau disque de mix. Figure sur votre troisième album, paru en 77. On y trouve aussi Give Me Love, qu'on a entendu tout à l'heure dans cette version 2022, en début d'émission. Alors, pas de femme nue sur la pochette cette fois, mais vous savez combien l'image est importante. Vous qui contrôlez tout, vous ferez bien fort en 2002 avec Hysteria. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes nues. Mais je reviens là aussi à Supernature pour savoir comment est né ce morceau, Céron.
Un peu par accident, mon troisième album était fait. C'était Give Me Love qui était le single prévu. Et à découvrir, parce qu'on m'a envoyé un carton avec un appareil, un synthé à l'intérieur. Déjà, le mot synthé, ça voulait dire quoi presque. Et il y avait un ARP Odyssée. Et puis, par accident, et que je ne suis pas un claviste, je ne suis pas un programmateur de son, chez moi, j'ai essayé de découvrir. En fin de compte, il s'était coincé. Je ne savais pas le régler autrement que d'avoir ce séquenceur. Donc, je changeais de note parce que ça devenait un peu lourd, toujours sur la même. Et puis, je me suis un peu hypnotisé, un peu, si l'on pouvait dire, tout seul. Donc, j'ai rajouté une basse. J'ai rajouté un pied en tapant comme ça sur le micro, avec le bout du doigt.
Faites bien.
Et chanter la mélodie. Et puis, j'ai fait écouter ça à mes équipes, dont Donneret. Et dont un autre collaborateur qui s'appelle, t'appelles toujours d'ailleurs, Alain Vissniac, qui était un bidouilleur de son et un mec assez pointu. Et on est passé en studio. Et on a enregistré en plus le séquenceur en demi-vitesse. Je vous dis pas la difficulté.
Bidouillage, quoi, total. Hein.
Au niveau de la compo, en une après-midi, j'avais fait Supernature. Qui devait s'appeler d'ailleurs le nom de mon label Maligator. Maligator. Et Lena Lovitch, qui était l'une des. Elle était en train de créer un mouvement. Il y avait Nina Hagen, il y avait plein de gens dans son domaine. La punk arrivait. Et je lui ai expliqué que je voulais déjà une chanteuse ou un chanteur un peu. Comment dit-on ni femme, ni homme.
Oui, androgyne.
Androgyne, pardon.
Je ne voyais pas.
Assez androgyne, je voulais un truc un peu bizarre, je voulais que des sonorités bizarres. J'ai poussé toutes mes équipes à rester dans le bizarre. Et évidemment, Lena Lovitch m'a dit, on va pas mettre Maligator, on va faire Supernature. Ouais. C'est mieux. Et je lui ai dit, dis donc, aussi, j'ai été marqué par un film à l'époque qui s'appelait L'île du Docteur Moreau.
Ouais.
J'aimerais bien qu'on parte là-dedans. On est tous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre planète? C'est notre chez nous. On y vit. On est fou. On va devenir ni animaux, humains. On respecte rien. Et elle est partie dans ce texte superbe. D'ailleurs, elle a très bien réussi. Et qui est plus à la mode presque aujourd'hui. Ouais. C'est fou que.
Hélas, plus d'actualité encore.
C'est même triste au bout de 45 ans que ce texte.
Soit autant d'actualité.
Ah, exactement.
Ouais. On l'a encore entendu tout à l'heure. Hein. 70% des espèces disparues dans les 50 dernières années.
Mais vous vous rendez compte.
Passons. Le passage au 21e siècle, Céron, il se fait aussi grâce à l'album Céron by Bob Sinclair, parce qu'il y a toute cette nouvelle génération qui pas seulement la nouvelle, il y a eu Paul McCartney, mais il y a eu aussi donc les Daft Punk, les Run DMC, Public Enemy, beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont utilisé vos samples. Bob Sinclair, lui, il a fait cet album avec vous.
Il a commencé par
un remix de Love in C Minor.
Oui, j'étais en train de. Pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai eu la chance. qu'on me confie la production de gros événements. Pendant la période où peut-être que le disco était moins à la vogue, en vogue, même si on faisait toujours de la musique de dance pour les discothèques, on appelait ça du groove, du garage, on appelait ça de la house, mais c'était de la musique de discothèque. Et je produisais des gros événements, et mon fils, qui est américain et qui vit aux États-Unis, était copain avec Bob Sinclair. Et il me dit, j'ai un copain qui voudrait être samplé. C'est quoi un sample? C'est quoi? Et donc, le Bob Sinclair m'appelle et me confie son projet. Et je lui dis, bah, écoute, fais-le. Et quand j'écoute, je te dirai. J'ai écouté, c'était vachement bien.
Il est doué.
Absolument. C'était I Feel For You, le titre. Et c'était un gros sample d'un titre Look For Love de mon bac catalogue. Et je lui dis, je vois tellement où tu veux aller. Moi, je suis dans la production d'événements. Je suis ailleurs maintenant. Viens me rejoindre à Los Angeles. T'auras mon studio, t'auras mes chanteurs, mes chanteuses, mon arrangeur de voix, et tu vas faire un, sans prétention, un Céron. C'est devenu I Feel For You, ça a été un tube planétaire.
Énorme.
Et du coup, maison de disques me disant, on va sortir un best-of, tes originaux et tout, je trouvais ça très, très, très stupide. Et je dis comme ça, par accident, une fois de plus, dans un déjeuner, je dis à Bob Sinclair, tu veux pas me faire un set d'une heure, comme si t'étais dans un club, tu prends que mes originaux, pas de remix, des originaux, et tu me fais un truc d'une heure. C'est un peu ce qui est aussi le Céron by Céron d'aujourd'hui. Et on l'a sorti, et c'est devenu, ça a été très très important. Donc ça a réveillé aussi beaucoup de producteurs et des gens qui travaillaient déjà, des DJ qui travaillaient déjà dans ce qui était en train d'arriver. Et ils ont mis les mains dedans. Je pense que c'est ça qui m'a fait aussi passer des générations en générations. Mon son n'a pas vieilli parce qu'il s'est associé à des nouveaux succès. Et puis voilà qu'il y a 8 ans, je faisais toujours des concerts, j'ai toujours passé ma vie sur scène, qu'on me dit tu devrais prendre des platines, ça te ferait faire des festivals, que tu ne peux pas avoir accédé en tant que live, c'est pas le genre. Bref, je me suis laissé convaincre. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Aujourd'hui, quand je vois encore aux gens, cet été, j'ai fait une trentaine de dates dans des festivals. Et c'est de plus en plus grand, 25 000. Et d'avoir une jeunesse qui a 18, 35 ans, qui vous regarde en haut. Et à la fin, quand vous venez saluer, qui viennent vous dire « Céron, on est ton futur !» Quel cadeau.
Ah, c'est gagné, là.
C'est pas gagné, c'est des cadeaux. J'ai des frissons, j'ai... Après 50 ans, je suis, j'ai les pieds sur terre, je sais l'âge que j'ai, je suis tout à fait lucide de tout ça, et d'arriver, ils ont toujours la banane, sauf que quand je pars, ils ont toujours la banane, mais ils sont en sueur, ils sont déchaînés, d'avoir partagé 1h30 de danser ensemble, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait en DJing, et puis ça m'a fait aussi découvrir, je travaille sur une machine qui s'appelle Ableton, que j'ai rempli de mes samples de mon bac catalogue, de violon, de guitare, de basse, de tous les titres. Et en fait, j'ai appris à faire un mix live en envoyant les a cappella de mes titres et par derrière changer les orchestrations au fur et à mesure à chaque fois. C'est comme ça qu'est né ce dernier album. Et après, on a quand même s'est dit, là, on s'arrête, c'est comme ça qu'il faut le garder. J'ai viré les a cappella, j'ai pris un artiste anglais, Brendan Rillis.
Magnifique voix.
Magnifique voix, l'un des chanteurs de Disclosure. Je lui ai fait tout chanter pour qu'on ait un son bien compact. Pas comme un podcast, qui a beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils ont les meilleurs chanteurs de la planète, mais ça sonne un peu podcast. Il y a plus de, c'est pas un pack de sonorités artistiques. Et voilà, un petit peu comme j'ai travaillé dans mes premiers albums. Excusez-moi d'être long dans la.
Ah non, mais c'est un régal. Mais qu'est-ce que j'entends arriver? J'entends arriver Supernature. We'll be right back.
upon a time, science opened up the door. We would feed the hungry fields till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below.
Supernature. Supernature. Supernature.
Toutes les personnes qui viennent de danser chez elle, ou au travail, ça dépend, peuvent dire merci, Marc Cerron.
Alors, je peux dire ce que je vois, ce que j'ai vu, ça m'est rarement arrivé, n'importe où dans le monde, de voir une cabine à France Culture, en plus, déchaînée comme ça. Je suis content de repartir un peu plus gai, et de vous laisser l'équipe un peu plus gai par rapport aux news qu'on vient d'apprendre.
Oui, ben c'est grâce à vous. Merci, Cerron. Le disque Cerron, by Cerron, sort demain dans les bacs. Comme ça, on peut tous rentrer dans le club où vous mixez. Merci d'être venu.
Merci, bon moment, merci à vous.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Como.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous allez nous parler de L'enfant que j'ai connu, un spectacle de Julien Fissera qui met en scène ici un texte écrit par l'écrivaine Alice Zénitaire.
Oui, une petite forme, un seul en scène qui dure une heure et qui commence avec une phrase « Je ne pensais pas que la police pouvait tuer un enfant blanc ». Une phrase qui nous pousse violemment dans le spectacle, puisque la comédienne la prononce comme on la jette, en faisant irruption sur la scène. Ce sursaut initial, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux dans le spectacle, un vrai geste de théâtre brutal, lançant une machine qui malheureusement s'enraye en cours de route pour finalement presque se retourner contre le propos. Cette phrase, Nathalie Couderc l'a prononcée au tribunal après que l'agent de police qui a tué son fils lors d'une manifestation à Lyon a bénéficié d'un non-lieu. 2 ans après, elle rebalance cette phrase et réfléchit à ce qu'elle veut dire et, au-delà de son cas personnel, ce qu'elle signifie dans un monde où la police peut tuer des jeunes gens qui manifestent et où ces jeunes gens sont souvent noirs et arabes. Alice Zénitaire réengage une plume qu'on lui connaît désormais dans le roman et au théâtre aussi, une plume qui fouille l'air du temps et dans un premier temps ça fonctionne vraiment. Ce personnage de quinquagénaire urbaine et bourgeoise, sidéré doublement par le deuil et par le privilège qui la protège normalement des bavures policières, on la croit, on la connaît et sa confusion pose question. Est-ce que cette déclaration est raciste? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le monologue se ferait d'abord un chemin pas trop didactique, mais malheureusement, ça ne dure pas.
Ah, c'est souvent ça qui vous gêne dans ce type de texte, Lucille. On vous connaît, c'est une forme de prétention pédagogique.
Mais oui, vous me connaissez bien. Je préfère toujours, quand un spectacle, un texte, un film fait confiance au spectateur, plutôt qu'il ne cherche à lui expliquer la vie, je trouve qu'on nous explique suffisamment la vie dans la vie. C'est intéressant à observer ce texte, on voit vraiment à quel point la panique morale, certainement propre à tout un milieu culturel concerné et avide de se connecter avec le réel, dont d'ailleurs je peux être aussi, je ne me fais pas d'illusions, comment donc cette panique morale finit par empêcher la complexité d'advenir sur scène et par museler le discours. Au lieu d'assumer ce que cette accroche a de choquant, ce qu'elle révèle de honteux, de sale dans une certaine pensée progressiste de gauche, le texte finit par se transformer en tribune contre les violences policières. Alors c'est imparable d'un point de vue politique. Peu de gens, a priori, trouvent normal que de jeunes gens meurent tués par la police. L'adhésion devient tellement facile qu'elle gêne. Le discours, au départ confus, effiloché, parfois à la limite de l'incohérence, tordu par l'incompréhension et par la douleur, d'un coup se canalise dans une forme classique, thèse-antithèse, question rhétorique lancée à l'Assemblée, jusqu'à cette conclusion finale qui ramollit tout ce que l'introduction pouvait avoir de dur et de violent. « Je ne veux plus de mon privilège ». C'est là que la machine du texte se retourne presque contre elle-même. On se demande même si le spectacle n'est pas un peu limite, qui engagerait une sorte d'appropriation culturelle malsaine de la violence policière. C'est vraiment dommage, d'autant que la comédienne est formidable. Anne Roger, certains la connaissent certainement, elle joue dans les spectacles de Joël Pommerat, impose sur scène son corps mince, étrange, désarticulé parfois par la douleur, burlesque aussi, avec des effets clownesques, quand par exemple elle enfile les vêtements trop grands de son fils mort. Quand le spectacle commence, le seul en scène ressemble presque à du stand-up avec des numéros, des punchlines. J'ai tout de suite pensé à Florence Foresti, la comique. Il y a vraiment quelque chose de commun presque dans le visage et puis dans cette posture moquée de la bourgeoise urbaine. Là, pour le coup, il se passe quelque chose. Ça met même franchement mal à l'aise, cette espèce de tombeau politique dressé par une caricature de Florence Foresti. Là, on réfléchit un peu à ce que c'est que la bourgeoisie de gauche, ses ridicules, son hypocrisie, ses névroses collectives. C'est étonnant que le projet avorte, car la mise en scène et la direction d'actrice semblent vraiment encourager cet écart et assumer la cruauté. Dommage vraiment, on dirait que ce spectacle a peur de lui-même.
Ce spectacle, c'est L'enfant que j'ai connu, un texte d'Alice Zénitaire, mis en scène par Julien Fissera, avec Anne Rogers, au Théâtre de la Ville, Espace Cardin, à Paris en ce moment, puis on pourra le voir à Orly, Ajaccio, Bastia. Les dates de la tournée sont bien sûr à retrouver sur le site des Affaires culturelles. Affaire en cours à présent avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
Et ce soir, vous vous intéressez, et nous donc, à l'arte povera.
Oui, Arnaud, car une grande exposition vient d'ouvrir ses portes dans deux lieux parisiens, au bal et au jeu de paume, et présente sous un jour nouveau l'arte povera, ce mouvement italien né dans les années 60 qui prône notamment la sobriété. L'artiste povériste travaille en effet une œuvre sans emphase, à contre-courant du productivisme acharné. Et je suis allée retrouver Diane Dufour pour en savoir plus sur ces artistes et sur leur vision de l'art. Diane Dufour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes commissaire d'exposition et co-directrice du BAL, cet espace dédié à l'image document. Cette exposition sur l'arte povera se propose surtout d'explorer ce mouvement artistique via la photographie et la vidéo, médias qui sont habituellement peu liés à l'arte povera. Alors qu'est-ce qu'ils nous apprennent de nouveau ?
Alors nous nous sommes effectivement concentrés sur les artistes comme Paolini, comme Manzoni, comme Pistoletto, comme Pennone, qui vont faire un usage de l'image. Ils ne vont pas se considérer photographes ou vidéastes pour autant, mais ils vont intégrer l'image fixe ou animée dans leur pratique. Et ce qui nous a intéressé, c'est que au départ, l'image n'est vraiment pas du tout considérée comme un matériau propice à cette création spontanée du moment qui exprime une fusion entre l'art et la vie. Et finalement, si, ils ont énormément utilisé l'image.
Pourtant, a priori, on se dit que et la photographie et le film ou la vidéo ne sont pas des matériaux pauvres.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que ce sont des matériaux. L'image peut être pauvre, ou elle peut être traitée de manière pauvre, ou elle peut être envisagée. La pauvreté d'un matériau, pour l'arte povera, c'est pas l'idée que c'est forcément du caoutchouc ou du charbon, ou voilà, un matériau non noble par rapport au marbre ou par rapport à une toile de peintre. C'est plutôt l'idée que c'est l'essentialité du geste, c'est-à-dire qu'il faut faire un geste qui va encapsuler énormément d'intentions, d'émotions ou de perceptions, mais qui est très simple, qui peut être compris de tous. Et il faut rappeler que l'arte povera s'inscrit dans un moment de l'histoire de l'Italie où triomphe le pop art aux États-Unis, évidemment incarné par la figure de Warhol, par exemple. Et donc, les artistes italiens tentent de dire autre chose, tentent de dire que l'art peut être quelque chose de différent d'un produit, que l'artiste peut être différent d'être une star, ou lui-même se considérer comme un personnage public qui doit incarner son propos. Et donc, il y a quelque chose de très beau, comme une forme de résistance par ces moyens minimaux dont l'image fera partie.
Alors, on l'a dit, hein, la sobriété compte beaucoup, le lien à la nature aussi, ce sont des thèmes éminemment contemporains. Est-ce que ces artistes italiens, qui étaient très actifs dans les années 60 et 70, étaient d'avant-garde ? Est-ce qu'ils parlent plus à notre époque contemporaine qu'à la leur ?
Alors, ils étaient d'avant-garde, absolument, puisqu'ils posaient la question, et c'est même l'enjeu principal de l'exposition, de qu'est-ce qu'être un artiste à ce moment-là, qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'un espace d'exposition, qu'est-ce que la modernité, qu'est-ce que le geste. Et ils vont, au contraire, s'emparer de la vie, hein, dans cette idée que la vie doit pénétrer l'art et que l'art doit pénétrer la vie. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est très, très beau et très juste. Alors, en ce sens-là, je pense qu'il parle tout à fait de l'époque contemporaine, c'est-à-dire d'une époque qui est préoccupée du rôle de l'art, qui est préoccupée de la figure de l'artiste, de sa posture, de son geste, mais qui forcément, aujourd'hui, est une posture ancrée dans les réalités, disons, anthropologiques, économiques, sociales, environnementales, etc., de notre société. Donc, oui, il y a un écho très fort, je pense. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, on a voulu explorer de nouveau cette période et montrer à quel point leur énergie, leur fièvre presque, leur effervescence de montrer quelque chose de différent, une posture différente. C'est aussi le moment où il y a un gros rouleau compresseur, hein, des États-Unis qui vont soutenir des sommes d'argent très importantes, l'Italie, l'économie de l'Italie, la transformation de l'Italie, ce qu'on a appelé le miracle italien. Donc les artistes aussi essayent de résister à ce rouleau compresseur et dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Il y a une phrase de Germano Celante, hein, qui a été le commissaire de l'arte povera, qui a même inventé le mot dans le catalogue de 69 qui démarre un peu ce mouvement et qui dit l'arte povera tend vers l'immense, l'immensité, tend vers le fragile, la fragilité, et tend vers l'invisibilité. Et donc ça, c'est des mots qui résonnent aujourd'hui. L'immensité, on se sent tous pris dans des problématiques qui nous dépassent complètement. La fragilité, on se rend bien compte que toute position péremptoire d'autorité verticale ne fonctionne pas. La fragilité, c'est quelque chose qui a de nouveau acquis une sorte de légitimité aujourd'hui. Et puis l'invisibilité, c'est très intéressant parce que l'image, justement, a priori, n'est pas un outil d'invisibilité. Donc comment fait-on pour faire de l'image l'outil de quelque chose qui est plus subtil que l'affirmation, que quelque chose qui va agir d'autorité. L'image est utilisée plutôt pour déminer que pour affirmer. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant et de beau et qui résonne avec nos problématiques d'aujourd'hui.
D'où vient le titre de l'exposition « Renverser ses yeux » ? Pourquoi est-il signifiant ?
Alors, « Renverser ses yeux » vient d'une œuvre éponyme de Giuseppe Pennone, qui s'appelle « Renverser ses propres yeux », qui est présentée au Jeu de Paume. On a choisi ce titre parce que les yeux, évidemment, évoquent l'image. Mais cette idée de renversement, c'est cette idée que les artistes de Arte Povera vont essayer d'inverser ce qui paraît à l'époque important. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'artiste qui, par sa subjectivité, son autorité, sa personnalité, son charisme, tout d'un coup occupe une place unique dans l'histoire de l'art. Ça, c'est le modèle d'avant. Eux, leur modèle, c'est pas ça. C'est un modèle qui démine les choses. On voit, par exemple, dans l'exposition, Manzoni, qui propose ce petit film incroyable d'une minute qui passait avant les films au cinéma, qui s'appelle Dévo l'art, où il propose d'abord de cuire des œufs durs, ensuite de mettre son empreinte sur des œufs durs et de proposer au public, un peu comme une eucharistie ironique, complètement humoristique, de dévorer son art. Et puis des choses aussi troublantes comme Fabio Mauri qui propose ses photographies d'une action qu'il réalise avec Pasolini, donc on est en 75, on est à Bologne, et il va projeter sur la poitrine même de Pasolini le film de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Et on voit un Pasolini dans l'obscurité qui reçoit littéralement, qui lui fait violence presque ce film. Il est presque dans une position christique, qui est la position évidemment du propos du film. Donc il y a plein de choses comme ça que l'expo met à jour et qui ne sont pas forcément associées aux œuvres de l'Arte Povera. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de découvertes pour le public.
L'exposition « Renverser ses yeux » autour de l'Arte Povera 1960-1975 se visite donc jusqu'au 29 janvier et elle est accompagnée, bien accompagnée, d'un catalogue paru aux éditions Atelier EXB. Merci Diane Dufour.
Et merci à vous Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec le violoniste Nemanja Radulović. Vous avez sorti le 7 octobre un album intitulé Roots. Ça donne l'occasion d'une série de concerts ces jours-ci à Avranches, Nantes, Paris. Roots, premier album chez Warner Classics après plusieurs années chez Deutsche Grammophon. De l'extérieur, on ne sait pas trop d'ailleurs ce que cela implique de changer de maison de disque. Pourquoi, dans votre cas, avoir changé ?
En fait, ça faisait déjà un petit moment qu'on avait envie de travailler avec l'équipe de Warner Classic et l'équipe de Alain Lanceron. Et voilà, c'était un changement naturel après plusieurs années avec Universal et Deutsche Grammophon. Voilà, c'était une continuation assez spontanée et naturelle d'imaginer des projets sur plusieurs années.
Alors vous avez pour ce nouveau disque choisi de construire avec votre ensemble, Double Sens, un carnet de voyage musical. Alors quels sont les pays, les régions qu'on va visiter à son écoute ?
Alors on a 22 pays dans ce disque. On commence avec la Serbie, c'est mes origines, mes racines. Et puis par la suite, il y a évidemment la France, il y a l'Écosse, l'Irlande, on touche aussi à l'Asie avec le Japon et la Chine, l'Inde, et vraiment ça va de l'Est à l'Ouest.
Vous travaillez dans cet album toutes les musiques folkloriques, dont on sait la parenté avec la musique classique à toutes les époques. Pour les jouer, quelles sont les difficultés principales selon vous ?
Sur cet album, c'était vraiment un défi, disons, en tant que violoniste, de redécouvrir certaines choses de mon instrument. Parce que quand je joue la musique classique, c'est assez différent. Et là, c'était une question déjà par rapport au son, par rapport à l'expression de chaque pays, des choses techniques, mais aussi des choses musicales qu'il faut rentrer un peu plus à l'intérieur. Donc c'était vraiment une période très intéressante pour moi en tant qu'artiste d'aller plus loin.
Est-ce que vous sentez, alors vous avez rappelé vos origines du côté de la Serbie, est-ce que vous sentez des correspondances, des échos avec des musiques qui a priori géographiquement sont lointaines ?
Ça peut arriver, en fait, d'avoir quelques harmonies qui peuvent se ressembler entre le Brésil, par exemple, et et la valse de France, voilà, mais c'est que quelques notes. Et on a essayé aussi, en faisant des arrangements, de faire les tonalités, en fait, dans lesquelles on joue des pièces qui peuvent se lier. Et c'était aussi une conduite à travers cet album.
Pas mal de concerts à venir, Nemanja Radulović. Est-ce que c'est un album aussi que vous avez composé en pensant à ce qu'il donnerait sur scène ?
En fait, cet album, l'idée est arrivée pendant le confinement, où j'ai écouté énormément de Mozart et la musique traditionnelle, la musique du monde. Et c'est vrai que cette musique, elle m'a aidé à voyager et m'a rendu la joie, en fait, la joie de vivre. Et je me suis dit, voilà, en sortant d'un confinement, ça sera bien de unir justement la planète et d'essayer d'oublier ce qu'on vit voilà, en ce moment, et ce qu'on a vécu il y a 2 ans avec le Covid.
Justement, quand vous avez retrouvé la scène, quelle impression, émotion vous avez eue ?
Non, mais c'était tellement bien de retrouver déjà les collègues et puis un public. C'est finalement, en étant musicien, on a vraiment besoin des gens qui écoutent, parce qu'ils font partie du concert. Donc c'est un mélange et j'étais ravi.
Les prochaines dates pour ces concerts, c'est samedi 15 octobre à Avranches, le festival Via Aeterna, 17 octobre à Nantes, dans le cadre de la saison des concerts, le classique C'est Fou, mardi 18 octobre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, puis bien sûr le disque Roots qui est disponible chez Warner Music. Merci Nemanja Radulović. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, a été écoutée et podcastée sur le site de France Culture et l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Apolline Limosino.